Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Un cristal de neige commence par presque rien. Un peu de vapeur dans de l'air froid, quelques molécules dispersées, invisibles, qui virevoltent au gré du vent. Rien encore qui ressemble à une étoile, rien qui annonce la géométrie délicate qui apparaîtra plus tard. Et pourtant, tout est déjà là. Pour comprendre la naissance d'un flocon de neige, il faut d'abord accepter une idée simple et étonnante. La forme finale, si élégante, est gouvernée par des lois microscopiques très modestes, quelques atomes, quelques liaisons, quelques règles locales.
La neige regarde la neige qui tombe.
Tout commence avec la molécule d'eau. Deux hydrogènes, un oxygène. Une structure simple, mais dissymétrique. Cette dissymétrie est essentielle. Elle donne à la molécule d'eau une polarité, une orientation possible, une manière de s'attacher aux autres. Dans la vapeur, les molécules d'eau sont libres. Elles se croisent, se heurtent, se séparent. Elles n'ont pas de place assignée, pas de rôle défini. Mais lorsque la température baisse, lorsque l'air devient suffisamment froid et saturé en vapeur d'eau, un changement subtil s'amorce. Les molécules ralentissent.
Cimetière enchanté, fait de légères tombes. Elle tombe la neige, silencieusement, de toute sa blancheur, d'un noir éblouissant.
Pour qu'un cristal de neige naisse, il faut un point de départ. On l'appelle un germe. Cela peut être une poussière microscopique, un grain de pollen, un fragment de sel, parfois même une imperfection de l'air lui-même. Ce support n'impose pas la forme du cristal, il offre simplement une première accroche. Une molécule d'eau se fixe, puis une autre. Elles ne se collent pas n'importe comment, elles obéissent à une règle simple inscrite dans la structure de la glace. Chaque molécule cherche à établir des liaisons hydrogènes avec ses voisines. Ces liaisons sont faibles individuellement, mais nombreuses et collectivement décisives. Dès les premiers instants, une géométrie s'esquisse. Les oxygènes commencent à s'organiser selon un réseau hexagonal. Ce réseau n'est pas encore visible, mais il est déjà contraignant. Une fois la première maille en place, les suivantes ont tendance à s'y conformer.
La neige, les yeux les mieux ouverts, sont encore des paupières. Et Dieu, pour le prouver, fait pleuvoir sa lumière glacée, ardente cependant. Cœur de braise tendu dans une main d'argent.
Pourquoi l'hexagone? La question traverse l'histoire de la neige depuis des siècles. La réponse moderne est à la fois simple et profonde. Elle tient à la manière dont les molécules d'eau peuvent s'assembler tout en respectant leur liaison. Dans la glace ordinaire, chaque oxygène est entouré de quatre autres oxygènes disposés de façon tétraédrique. Cette organisation tridimensionnelle, lorsqu'on la projette dans le plan où le cristal se développe, conduit naturellement à une symétrie hexagonale. Le cristal ne choisit pas l'hexagone par esthétique, il y est conduit par la géométrie de ses liaisons. Ainsi, dès que le cristal commence à croître, Il le fait selon six directions privilégiées. Ces directions ne sont pas imposées de l'extérieur, elles émergent de l'intérieur même de la matière. Le cristal de neige n'est pas dessiné, il est construit.
La neige, elle vient de si haut, la chaste damoiselle, que sa forme voilée d'étoiles se constelle. Elle vient de si haut, cette sœur des sapins, cette bombe lactée que lancent les gamins.
La croissance d'un cristal de neige est un phénomène hors équilibre. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un système calme, figé, parfaitement régulier. Au contraire, le cristal se développe dans un environnement changeant. Température variable, humidité fluctuante, courant d'air, turbulence microscopique. Les molécules d'eau arrivent une à une depuis la vapeur. Elles se déposent sur les faces du cristal, mais toutes les faces ne croissent pas à la même vitesse. Certaines captent plus facilement les molécules, d'autres sont momentanément défavorisées. C'est de là que naît la diversité infinie des flocons. À l'échelle atomique, la règle reste la même. Respecter le réseau hexagonal de la glace. Mais à l'échelle du cristal entier, les conditions locales varient sans cesse. Une légère différence de température suffit à modifier la vitesse de croissance d'une arête. Une infime variation d'humidité peut favoriser une branche plutôt qu'une autre. Lorsque le cristal atteint une taille suffisante, ces six directions privilégiées deviennent visibles. Des branches commencent à se développer. Elles ne sont pas ajoutées artificiellement, elles émergent naturellement là où la croissance est la plus rapide. Les extrémités des branches jouent un rôle particulier. Elles sont les plus exposées, elles sont les plus accessibles aux molécules de vapeur. Elles captent plus facilement les nouvelles arrivées. Ce phénomène d'amplification est fondamental. Ce qui croît un peu plus vite devient encore plus rapide. La géométrie s'auto-renforce. C'est ainsi que le cristal se ramifie. Chaque branche peut à son tour engendrer des sous-branches, toujours selon la même symétrie globale, mais avec une liberté locale considérable. À aucun moment, le cristal ne sait à quoi il va ressembler, il ne suit pas un plan. Il répond simplement aux contraintes locales, instant après instant.
Elle vient de si haut, la liquide étincelle, qu'au sommet de la terre, elle brille éternelle, brandissant son flambeau sur le pic et le roc, comme la liberté dans le port de New York.
À l'intérieur du cristal, les oxygènes sont ordonnés. Leur réseau est rigide, régulier, répétitif. Mais les hydrogènes, eux, conservent une part de liberté. Comme l'a montré la physique du XXe siècle, leur arrangement n'est pas unique. Il existe un désordre microscopique. Ce désordre n'empêche pas la croissance du cristal, il l'accompagne. Il confère à la glace une souplesse intime, une capacité d'adaptation.
La neige me meuse de revue, oh folie, Stalingrad, descend dans l'escalier des degrés centigrades, empanaché de plumes, négresse en négatif, elle dansait un palais angélique explosif.
Le cristal de neige est une structure stable, mais non rigide au sens absolu. Il accepte une multiplicité d'états internes. Ainsi, la régularité extérieure du flocon repose sur une liberté intérieure. Il y a là quelque chose de profondément paradoxal. Chaque cristal suit un trajet unique à travers l'atmosphère. Il traverse des couches d'air plus ou moins froides, plus ou moins humides, il tourne, il tombe, il dérive. À chaque instant, ses conditions de croissance changent. C'est pourquoi deux flocons ne sont jamais identiques. Non pas parce que la nature cherche la variété, mais parce que les trajectoires ne se répètent jamais exactement. La forme finale est l'enregistrement silencieux de cette histoire singulière. Le cristal de neige est une archive, il conserve la mémoire de son voyage. Et pourtant, malgré cette singularité absolue, tous les flocons partagent une parenté évidente, tous partagent le même langage géométrique, tous obéissent aux mêmes lois microscopiques, tous sont faits de la même eau.
Pour le soldat givré, agrippé à son arme, œuf de sang congelé dans un cristal de larmes.
À un moment, la croissance s'arrête. Le cristal atteint une région plus chaude ou plus sèche. Il n'y a plus assez de vapeur pour alimenter les branches. Le flocon tombe vers le sol, achevé, de moins pour un temps, car le cristal de neige est fragile. Il fond, il se brise, il se transforme. Sa forme, si patiemment construite, est éphémère. Mais cette fragilité n'enlève rien à la rigueur de sa construction.
Elle danse la neige dans la nuit de Noël autour d'un tank brûlé qu'elle a pris pour chapelle.
Connaître la structure atomique de la glace ne dissipe pas la poésie du flocon de neige, elle la déplace. Elle montre que la beauté n'est pas un ajout décoratif, mais une conséquence naturelle des règles simples appliquées avec patience. Le cristal de neige n'est ni un miracle ni un caprice. Il est le produit d'une rencontre entre une géométrie intime et un monde changeant. Il est à la fois nécessité et hasard, loi et circonstance.
La neige, tout de suite moisson, tout de suite hécatombe. Oh.
À Noël, lorsque la neige tombe, ou lorsque nous l'imaginons tomber, nous pouvons désormais entendre autre chose que le silence. Nous pouvons entendre, ou plutôt imaginer, le murmure des molécules, l'ajustement patient des liaisons, la lente construction d'un ordre fragile.
La neige regarde, la neige qui tombe.
Vous avez entendu Claude Nougaro chanter, bien sûr, La neige.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.